Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série extraordinaire concernant la rédemption. Et nous avons fait précédemment, dans le CD numéro 4, la première partie de Moïse à David. Mais comme c'était un sujet beaucoup trop long, eh bien aujourd'hui nous aurons la deuxième série, la deuxième partie, c'est-à-dire à partir du point numéro 10. Nous avons fait du numéro 1 au numéro 9, et maintenant c'est le point numéro 10. Donc, un autre événement dont Dieu se servit pour avancer son œuvre dans ce temps-là, ce fut le don remarquable qu'il a fait de son esprit à la jeune génération dans le désert. Ceux qui, au moment de la sortie d'Égypte, étaient âgés de 20 ans et au-dessus, étaient malheureusement des hommes au col raide et méchants. Ils n'abandonnèrent jamais, totalement, l'idolâtrie et la méchanceté qu'ils avaient apportée d'Égypte. Notez, pour vérifier tout ce que je vous dis, Exode chapitre 20, versets 6 à 8. Aussi, ils ont fait le veau d'or, terrible cela, en imitant de l'idolâtrie des Égyptiens qui rendaient un culte à un taureau. C'est pourquoi le bétail est appelé l'abomination des Égyptiens, c'est-à-dire leur idole. Dieu fut, et on le comprend, très en colère contre cette génération, et Dieu jura dans sa colère qu'il n'entrerait point en son repos. Mais la génération plus jeune de ceux qui étaient au-dessous de 20 ans, c'est curieux mais c'est vrai, quand ils sont sortis d'Égypte, eux n'étaient pas ainsi. Et quand à vos petits-enfants est-il dit, dont vous avez dit qu'ils seraient en proie, je les ferai entrer et ils sauront quel est ce pays que vous avez méprisé. Notez le nombre, notez les versets du livre des Nombres au début de votre Bible, le livre des Nombres, chapitre 14, verset 34. Ce fut là la génération avec laquelle Dieu renouvela son alliance, ainsi que cela est raconté dans le Deutéronome, et qui entra dans le pays de Canaan. Dieu se plut donc à faire de cette génération un peuple à sa gloire. Ils se distinguaient par leur piété, comme cela se voit par plusieurs choses rapportées d'eux, en particulier. « Va, écris, ceux de Jérusalem l'entendent et dit, ainsi a parlé l'Éternel. Il me souvient pour l'amour de toi, de la compassion que j'ai eue pour toi en ta jeunesse et de l'amour de tes épousailles quand tu venais après moi dans le désert, dans un pays qu'on ne sème point. Israël était donc une chose sainte à l'Éternel. c'était les prémices de son revenu. Tous ceux qui le dévoraient étaient trouvés coupables. Il leur en arrivait du mal, dit l'Éternel. Notez Jérémie chapitre 2, versets 2 et 3. Ici, il est question, avec beaucoup d'éloges, de la génération qui suivit Dieu dans le désert, comme très distinguée par sa sainteté. Leur amour pour Dieu est aussi grand que celui d'une épouse au festin des noces, quand ils le suivent à travers ce terrible désert, après être retourné en arrière depuis Kadesh Barnée. Toutefois, ils ne murmurèrent jamais contre Dieu, comme avait fait leur père. Leurs épreuves ont eu sur eux un effet tout contraire. Elles les réveillèrent, elles les convainquirent et les humilièrent et les préparèrent ainsi à être l'objet d'une grande miséricorde. Ils furent réveillés par les terribles jugements de Dieu qui fit tomber les cadavres de leur père dans le désert. Dieu accompagna ces dispensations providentielles, si propres à les rendre attentifs, leur propre voyage et les prédications que Moïse leur adressait dans le désert, et cela d'une effusion de son esprit, ce qui les conduisit à voir la méchanceté de leur propre cœur, et ainsi à s'humilier, de sorte que des multitudes d'entre eux finirent par être convertis. Et qu'il te souvienne, est-il dit, de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher durant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était en ton cœur, si tu garderais ses commandements ou non. Il t'a donc humilié et il t'a fait avoir faim, mais il t'a repu de la manne, laquelle tu n'avais point connue, ni tes pères aussi, afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome, chapitre 8, versets 2 et 3. Qui t'a fait marcher par ce désert grand et terrible? Un désert de serpents, même de serpents brûlants et de scorpions arides où il n'y a point d'eau. Et qui t'a fait sortir de l'eau d'un rocher qui était, on peut dire, un pur caillou? Deutéronome chapitre 8, verset 15. Et c'est pourquoi il est dit, « Je t'ai connu au désert, en une terre aride. » Notez Osée, chapitre 13, verset 5. Dieu les attira donc à lui. Dieu les conduisit dans le désert et leur parla d'une manière encourageante selon ce qui avait été prédit. Osée chapitre 2 verset 14. Ces terribles jugements exécutés dans l'assemblée après leur départ de Kadesh Barnée dans l'affaire de Corée et dans celle de Péor, tombèrent surtout sur la vieille génération, on a vu que Dieu consuma dans le désert. Ces révoltes avaient lieu principalement parmi les plus âgés de l'assemblée, malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'ils s'abandonnaient aux passions de leur cœur. Ils marchaient d'après leurs désirs et par leur conduite, eh bien, on peut bien comprendre, ils ont fatigué Dieu pendant 40 ans dans le désert. Toute l'histoire de la jeune génération montre qu'elle se distinguait par sa piété, au contraire de ceux qui étaient plus âgés. C'est triste à dire. Et je vois combien c'est une grâce qu'à 90 ans, Dieu m'a tout totalement pardonné, le parcours affreux, le parcours qui l'a attristé de ma jeunesse. Évidemment, il n'y a pas d'excuse, car nous sommes tous responsables personnellement. On pourrait trouver des excuses en disant « Mon père s'est marié 5 fois, ce qui est vrai, que j'ai été battu par 5 marâtres, ce qui était vrai, que j'ai pu faire que 4 ans d'école primaire et que j'ai dû me sauver pour sauver ma vie, c'était vrai. Mais il y a eu un parcours épouvantable, longtemps, et Dieu, dans sa miséricorde, a permis que Jésus-Christ me sauve et me rachète. Aïe, combien je suis reconnaissant. Oh, combien. Et ce que je voudrais, moi, qu'il le fasse pour vous également. Qu'il vous convertit, qu'il vous bénit, qu'il vous fait sortir de tout ce qui lui plaît pas tellement. Oui, voyez-vous, chers amis, Dieu a fait de grandes choses pour cette génération. Dieu a combattu pour eux et il leur a donné la possession de Canaan. Et c'est ainsi que Dieu agit quand il a de grandes faveurs à accorder à un peuple, qu'il commence par les préparer pour ses grâces, après quoi il les accorde. C'est ce qui a eu lieu ici. Ils ont commencé à croire en Dieu, et par la foi, ils ont commencé par triompher de Sion et de Og, ainsi que des géants de Canaan. Ils sont félicités de s'être attachés à l'Éternel. Josué leur dit, « Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous avez fait jusqu'à ce jour. » Notez Josué chapitre 23, verset 8. Mais après la mort de Josué et de cette génération, il en survint une autre qui ne connaissait pas l'Éternel. Cette pieuse, croyante génération montra dans plusieurs circonstances un véritable zèle louable et fervent pour Dieu à l'occasion du péché de Acan, et surtout quand on soupçonna les 2 tribus et demie d'avoir élevé un autel en opposition à celui des holocaustes. Il n'y eut jamais en Israël d'autres générations dont on rapporte tant de bien et si peu de mal. Il faut remarquer encore que c'est pendant cette génération que a eu lieu, pour la seconde fois, une circoncision générale qui a eu pour effet de mettre Israël à l'abri de tout reproche et de le rendre absolument pur. Plus tard, quand ils furent souillés par Hakan, ils se purifièrent eux-mêmes. Les hommes de la génération précédente étaient donc morts, et Dieu, ayant sanctifié pour lui-même la génération présente, il renouvela solennellement son alliance avec eux, comme cela est raconté, noté s'il vous plaît, dans le 29e chapitre du Deutéronome. Ça se trouve au début de votre Bible. Nous voyons que ces renouvellements solennels de l'Alliance étaient ordinairement accompagnés d'une remarquable effusion du Saint-Esprit, produisant une réformation générale. Ce fut le cas du temps de Ézéchias et de Josué. On en est à se demander s'il y eut jamais une époque durant laquelle la religion fut plus florissante dans l'Église des Israélites que pendant cette génération-là. De même que dans l'Église chrétienne, la religion a été le plus florissant au jour de ses noces, du temps des apôtres, il semble en avoir été ainsi de l'Église juive dans les premiers jours de son établissement, du temps de Moïse et de Josué. Ainsi Dieu, dans ce temps-là, a fait glorieusement avancer l'œuvre de la rédemption au moyen de sa sainte parole et de son Esprit Saint. Par ce moyen, l'œuvre de la rédemption fut donc avancée, non seulement parce que en soi ce fut un cas remarquable de rédemption pratique, mais parce que ce fut le moyen dont Dieu se servit pour établir régulièrement l'Église juive, alors qu'elle observa pour la première fois toutes les cérémonies dans le pays de Canaan, suivant les ordres de Dieu. C'est ainsi que l'effusion du Saint-Esprit au commencement de l'Église chrétienne fut d'un secours très puissant pour son établissement dans tous les siècles suivants. Nous arrivons à onzièmement. Remarquons encore comment Dieu, par le moyen de Josué, introduisit et établit le peuple dans le pays où Christ devait naître, grand type de la Canaan céleste qu'il a acquise par son sang précieux. Josué descendait de la postérité de Joseph et il fut un type remarquable de Christ. C'est pourquoi il est appelé le berger, le rocher d'Israël, dans la Genèse, chapitre, je crois, 49, verset 24. En sa qualité de type, il y a eu le nom de Christ. Josué et Jésus ne sont au fait qu'un même nom. L'un se dit en hébreu, l'autre en grec. Aussi dans le Nouveau Testament, d'abord écrit en grec, Josué est-il appelé Jésus? Ils portèrent sous la conduite de Jésus, c'est-à-dire de Josué, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 45. Si Jésus, c'est-à-dire Josué, les a introduits dans le repos, jamais après cela, il n'eut parlé d'un autre jour, selon Hébreux chapitre 4, verset 8. Dieu mit donc, d'une manière miraculeuse, le peuple en possession de ce pays, triomphant de ses habitants et des géants puissants. Il y avait des Goliaths. Oh oui, il y en avait beaucoup de ces Goliaths. Mais David est venu à bout de ce grand, gigantesque Goliath, comme Jésus-Christ a triomphé du diable. Oui, Jésus a vaincu d'abord les puissants rois par Josué. Les puissants rois, on peut bien le dire, à l'Orient du Jordan, Sion, le roi des Amoréens, et Og, le roi de Bassan, après quoi il sépara en deux le Jordan comme il avait séparé autrefois la mer Rouge. Et il a fait tomber les murailles de Jéricho, et cela au son de la trompette des sacrificateurs. Oui, ce sont, on peut dire, l'herbe, le bruit de la trompette. Cela est une image de la voix de l'Évangile dans la prédication et de ses ministres, car les murailles de Jéricho, la cité maudite, cela représente les remparts du royaume de Satan. Et après cela, ils ont détruit miraculeusement, par l'aide de l'Éternel Dieu, la puissante armée des Amoréens qui a été conduite par cinq rois, arrêtant le soleil et la lune. Dieu a arrêté pour eux le soleil et la lune pour assister le peuple contre ses ennemis à la prière de Jésus, typique, c'est-à-dire de Josué. Dieu montra donc clairement par là que la nature entière serait subordonnée à l'œuvre de la rédemption et que tout concourrait à la prospérité du peuple racheté. Ainsi, Christ montra son grand amour pour son peuple en interrompant le cours de la nature dans l'intérêt de leur bonheur et de leur prospérité. Dieu montra par là que le soleil et la lune et que toutes les choses visibles et invisibles étaient à eux en vertu de son rachat. En même temps, Jésus-Christ combattit comme le capitaine de leur armée. Je veux dire par là Dieu l'Éternel. Il lança de la grêle contre leurs ennemis, de sorte qu'il en périt plus de cette manière-là que par l'épée des Israélites. Après quoi, je dis Christ, mais vous savez que c'est la même chose. Yahvé l'Éternel leur a fait remporter une grande victoire sur une armée encore plus puissante qui s'était rassemblée dans le nord du pays, près des eaux de Mérom, et ils étaient aussi nombreuses que les sables de la mer. Josué chapitre 11, verset 4. Ainsi, voyez-vous, Dieu donna au peuple duquel Christ devait procéder le pays dans lequel il devait naître, il devait vivre et prêcher et faire des miracles et ensuite mourir et ressusciter, alléluia, pour ensuite monter aux cieux, dont cette contrée était un grand type. Nous arrivons à deuxièmement, Dieu fit encore une autre chose dans l'intérêt de l'œuvre de la rédemption. Dieu fit mettre en pratique par le peuple une forme de culte déterminée, selon ce qu'il avait arrêté auparavant dans le désert. Ce culte fut établi au mont Sinaï pour préparer la voie à la venue de Christ. Ces innombrables ordonnances cérémonielles étaient autant de types de lui et de sa rédemption. Mais il y avait beaucoup de portions de leur culte qui ne pouvaient pas être observées dans le désert par suite de l'état transitoire dans lequel ils étaient. Il y avait plusieurs préceptes concernant le pays de Canaan qui ne pouvaient être mis en pratique que lorsqu'ils seraient arrivés dans ce pays-là. Mais maintenant que cela a eu lieu, Dieu place son tabernacle au milieu de son peuple, comme il leur avait déjà promis. Notez le livre de Lévitique, chapitre 26, verset 11. Il est dit, « Je mettrai mon tabernacle au milieu de vous. » Le tabernacle fut établi à Silo, selon Josué, chapitre, 18, verset 1. On désigna leur fonction aux sacrificateurs et aux lévites. On fixa les villes de refuge. Et le peuple entier fut mis en état d'observer les fêtes des premiers fruits, celles de la moisson, de porter la dîme et de sacrifier à Dieu les offrandes déterminées. La plupart des cérémonies du culte furent dès lors observées, excepté quelques-unes qui le furent beaucoup plus tard. Nous arrivons à treizièmement. Nous arrivons donc à treizièmement. Ensuite, nous voyons que Dieu préserva miraculeusement ce peuple à partir de ce temps-là, lorsque tous les hommes montaient trois fois par année au lieu où se trouvait l'arche de l'Éternel. Le peuple d'Israël était généralement entouré d'ennemis, cherchant toutes les occasions de les détruire et de les déposséder de leur pays. Jusqu'au temps de David, le peuple resta dans la contrée beaucoup de Cananéens et d'autres habitants antérieurs qui furent des ennemis, vraiment des ennemis acharnés des Israélites. Ils avaient trois fois l'année une belle occasion de parcourir le pays, de s'emparer des villes, pendant que les femmes et ceux qui n'étaient pas en état de faire la course étaient seuls et laissés en arrière. Et voyez-vous, pourtant, et oui, pourtant, ils furent admirablement préservés à cette époque, pendant toute la génération, conformément à la promesse. Car il est dit, « Je déposséderai les nations de devant toi et j'étendrai tes limites et nul ne convoitera ton pays lorsque tu monteras pour comparaître trois fois l'année devant l'Éternel ton Dieu. » Exode, chapitre 34, verset 24. Et c'est ainsi que Dieu régla admirablement toutes choses et agit sur le cœur de leurs ennemis. Ils étaient pleins de haine contre Israël. Ils désiraient les déposséder de leur pays et ils avaient souvent une si belle occasion que toute la contrée était ouverte et privée de tous ceux en état de leur résister. Ils n'avaient que à aller et prendre possession, et pourtant nous ne lisons jamais dans toute leur histoire que leurs ennemis aient profité de ces occasions-là. Ce n'est rien moins qu'un véritable miracle, un miracle continu, que Dieu, pour le salut de son Église, avait accompli pendant tant de générations. Ce fut là, certainement, une admirable dispensation de la Providence pour avancer le grand plan de la rédemption. Quatorzièmement, Dieu préserva son Église et la véritable religion d'une extinction complète dans les nombreuses apostasies, les Israélites du temps des juges. Combien ce peuple était prompt à oublier pour retomber dans l'idolâtrie le vrai Dieu qui avait fait en leur faveur des choses si admirable, il faut bien le dire. Et comme le pays, de temps à autre, sembla être presque entièrement envahi par elle, pourtant Dieu ne permit jamais que la véritable religion fût complètement abolie. Son tabernacle resta debout. L'arche fut donc conservée. Le livre de la loi fut préservé de la destruction, la sacrificature fut maintenue, et Dieu a eu toujours une église au milieu de son peuple. À plusieurs reprises, alors qu'il semblait en être fini de la religion, Dieu accorda un réveil. Dieu envoya quelques anges ou il suscita quelques hommes distingués pour être un instrument de leur réformation. Quinzièmement, Dieu préserva ce peuple de la destruction. Bien qu'ils fussent souvent vaincus et réduits en esclavage par leurs ennemis, eh bien c'est un miracle non seulement que la véritable religion n'a pas été complètement perdue et par là même l'Église détruite, mais aussi que la nation même dans le sein de laquelle cette Église se trouvait n'ait pas été complètement détruite tant ils furent en danger par leurs ennemis. Une autre fois, ils sont tombés au pouvoir des Moabites. Aujourd'hui, ils sont vendus en la main de Jabin, le roi de Canaan, et plus tard, ils ont passé sous la domination des Madianites. Un jour, ils sont tourmentés par les Ammonites et un autre jour par les Philistins. Et pourtant, au milieu de tous ces terribles dangers, Dieu les préserva d'une ruine totale. De temps à autre, quand les choses en venaient à une extrémité et que Dieu voyait qu'ils étaient sur le penchant de leur ruine, eh bien Dieu suscitait un libérateur selon la promesse. Mais l'Éternel jugera son peuple et se repentira en faveur de ses serviteurs quand il verra que la force s'en sera allée. Notez Deutéronome chapitre 32, verset 36. Du reste, le psalmiste, il fait une description très belle et très vivante d'une dispensation si remarquable de la Providence dans le fameux psaume, je crois, 56, verset 34. Et les versets suivants. Ces libérateurs étaient tous des types de Christ. Le grand rédempteur et libérateur de son Église, et plusieurs l'ont été d'une manière très frappante, comme Barak, Jephté, Gédéon, et sans oublier Samson, dans beaucoup de détails, surtout nous avons Samson. Ensuite, 16e, il est à remarquer que quand Dieu apparut pour diriger les affaires de l'Église pendant cette époque-là, Dieu apparut souvent sous la forme de cette nature qu'il a pris à son incarnation sous la forme de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il semble avoir paru plusieurs fois à Moïse, et particulièrement à cette époque où Dieu lui parla face à face, comme à un ami, comme un ami parle à son ami, et qu'il a vu la manifestation de l'Éternel. Notez le livre des Nombres, chapitre 12, verset 8. Après l'avoir supplié de lui montrer sa gloire, ce qui fut la vision la plus remarquable qu'il n'a jamais eue de Yahvé l'Éternel, ou si vous voulez, de Jésus-Christ. Moïse a eu une double révélation de Christ, une spirituelle, par la parole qui fut proclamée, comme donc l'Éternel passait devant lui, il cria, et l'Éternel, l'Éternel, le Dieu fort, pitoyable, miséricordieux, tardif à colère, abondant en gratuité et en vérité. Exode chapitre 34, verset 6. L'autre fut extérieure, c'est-à-dire celle que Moïse eut quand Dieu passa et le mit dans une fente de rocher. Il vit sans doute une magnifique forme humaine sous laquelle certains commentateurs disent Christ, mais nous pensons que c'est Dieu le Père, Yahvé l'Éternel, lui avait apparu. Et probablement cette forme humaine glorifiée sous laquelle il devait se montrer plus tard, il n'a pas vu sa face, car il est dit, il n'est pas supposable qu'un homme pouvait contempler la gloire présente de la nature humaine de Christ et vivre. Comme j'ai dit, quelques commentateurs pensent que c'était Dieu, le Père lui-même. Ainsi ce fut sous une forme humaine que Christ apparut aux 70 anciens, puis Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens montèrent et il ne mit point sa main sur ceux qui avaient été choisis d'entre les enfants d'Israël. Ainsi, ils ont pu voir Dieu et ils ont, on peut dire, mangé et bu. Exode chapitre 24, verset 9, et notez aussi le verset 11. Plus tard, je dis Christ, mais selon certains commentateurs, c'est Yahvé l'Éternel, Jéhovah, apparu de même à Josué, sous une forme humaine, est-il dit, ça pourrait bien être Christ. Et Josué, il s'est jeté sur son visage en terre, et il s'est prosterné et lui a dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Josué chapitre 5, verset 3 et 14. C'est ainsi qu'il apparut à Gédéon, selon le livre des Juges, chapitre 6, verset 11, et à Manoah, Juges chapitre 13, verset 17 à 21. Christ, ou Yahvé l'Éternel, apparut donc à Manoah sous une forme rappelant à la fois son incarnation et sa mort. Elle rappelait son incarnation en ce qu'elle était humaine et sa mort et ses souffrances étaient représentées par le sacrifice du chevreau et par son ascension dans la flamme du sacrifice, montrant par là qu'il était la grande oblation qui devait être offerte à Dieu en sacrifice de bonne odeur dans le feu de la colère de Dieu, comme ce chevreau fut brûlé et s'éleva dans la flamme. Et c'est ainsi que Christ apparut de temps au autre, sous la forme de cette nature qui devait prendre plus tard, parce que déjà alors, il apparut dans le même but et pour accomplir la même œuvre. Nous arrivons à 17e. Eh bien, une autre chose se rapportant à l'œuvre de la rédemption qui a eu lieu dans cette époque, ce fut le commencement d'une succession de prophètes et l'ouverture d'une école de prophètes du temps de Samuel. Incroyable mais vrai, il y avait donc eu une école de prophètes du temps de Samuel. Déborah, par exemple, était une prophétesse et plusieurs des grands prêtres furent inspirés de cet esprit, particulièrement Élie. Mais avant Samuel, il n'y avait pas en Israël une classe d'hommes qui a été mis à part d'une manière permanente et ce manque est remarqué dans 1 Samuel chapitre 3 verset 1 où il est dit « Or le jeune garçon Samuel servait l'Éternel en la présence de Élie et la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là et il n'y avait point d'apparition de vision. 1 Samuel chapitre 3 verset 1. Mais avec Samuel a commencé une succession de prophètes qui se sont maintenus d'une époque à l'autre, du moins avec de très courtes interruptions, jusqu'au moment où l'esprit de prophétie cessa, environ du temps de Malachie. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, Samuel est mentionné comme étant le chef de cette succession de prophètes. Et même tous les prophètes, depuis Samuel et ceux qui l'ont suivi, tout autant qu'il y en a eu qui ont parlé, ont aussi prédit ces jours-là. Actes chapitre 3, verset 24. Donc, après Samuel, on a vu que est venu Nathan, Gad, Hiddo, Héman, Asaph et beaucoup d'autres. Et plus tard, vers la fin du règne de Salomon, il est question de Ahija et du temps de Jéroboam et de Roboam. Il y en avait encore d'autres. C'est ainsi que les prophètes se succédèrent l'un à l'autre sans interruption, on peut dire, jusqu'à la captivité. Dans les écrits de ces prophètes conservés dans le canon des Saintes Écritures, il est parlé des prophètes comme d'un ordre permanent dans le pays. Il y a eu même encore des prophètes du temps de la captivité, tels que Ézéchiel et Daniel. Et après la captivité, nous voyons Zacharie, Agée et Malachie ou Malachie. Et comme Dieu voulait qu'il y eût, à partir de Samuel, une succession non interrompue de prophètes, il commença donc une école de prophètes, c'est-à-dire de jeunes hommes qui étaient formés sous les yeux de quelques grands prophètes qui étaient leurs maîtres et qui étaient aussi leurs précepteurs dans l'étude des choses divines et dans la pratique de la sainteté, afin de les préparer à remplir cette charge quand Dieu les appellerait. Nous lisons du reste que plus tard, ils furent sous les soins de Élie. Élisée, par exemple, était un de ses fils, mais il souhaita d'avoir une double portion, rappelez-vous, de l'esprit de Élie en qualité de son successeur, comme étant le fils aîné et avait l'habitude d'avoir une double portion des biens paternels. Ainsi, quand les fils des prophètes remarquèrent que l'esprit d'Élie reposait sur Élisée, eh bien, ils se sont soumis à lui et ils l'ont reconnu pour leur maître, comme ils avaient fait précédemment pour Élie. Et quand les fils des prophètes qui étaient à Jéricho l'ont vu, ils ont dit que l'esprit d'Élie s'est posé sur Élisée. Et ils ont pu voir au-devant de lui. Et ils se sont prosternés, est-il dit, devant lui en terre, selon 2 Rois chapitre 2 verset 15. Donc Élisée étant leur maître maintenant, ou si vous voulez leur précepteur, et il eut alors soin d'eux. Et après cela, Élisée revint à Gilgal, Or il y avait là une famine au pays, et les fils des prophètes étaient assis devant lui. Et il dit à son serviteur, « Mets la grande chaudière et cuis du potage pour les fils des prophètes. » Deux Rois, chapitre 4, verset 38. Du temps d'Élie et d'Élisée, il y avait donc plusieurs endroits où résidaient des compagnies de fils des prophètes comme Bethel, Jéricho et Gilgal. Il est dit ici de la prophétesse de Hulda qu'elle demeurait à Jérusalem au collège. Notez 2 Rois, chapitre 22, verset 14. Ils avaient donc bâti des maisons aux endroits où ils avaient l'habitude d'habiter ensemble. Aussi ceux de Jéricho s'étaient multipliés et ils ont trouvé leur maison trop petite pour les contenir et ils ont demandé la permission à leur maître et précepteur Élisée d'aller couper du bois pour en construire une plus grande. Il y eut à certaines époques des multitudes de ces fils des prophètes en Israël, car lorsque Jézabel a mis à mort les prophètes de l'Éternel, il est dit que Abdias en a pris 100 d'entre eux et les a cachés par cinquantaine dans deux cavernes, selon 1 Roi, chapitre 18 et verset 4. Donc 1 Roi, chapitre 18, verset 4. Eh bien, voyez-vous, ces écoles des prophètes ayant été établies par Samuel et ensuite ayant continué par des hommes tels que Élie et Élisée doivent être d'institutions divines. C'est pas possible autrement. Aussi voyons-nous que ces fils des prophètes étaient donc souvent favorisés d'une certaine mesure d'inspiration pendant qu'ils étaient encore sous les soins d'autrui et généralement quand Dieu appelait un prophète à exercer cette charge d'une manière permanente ou à quelque fonction extraordinaire, il le prenait de ses écoles. Pourtant, ce n'était pas toujours le cas. Ainsi, par exemple, le prophète Amos, parlant de son appel aux fonctions de prophète, il déclare qu'il n'avait pas été élevé à l'école des prophètes et qu'il n'était pas un de leurs fils. Amos, chapitre 7, versets 14 et 15. La circonstance d'Amos cite donc sa vocation comme étant un fait remarquable et cela montre que Dieu prenait ordinairement ses prophètes de ces écoles-là. En agissant ainsi, il ne faisait que bénir sa propre institution. Or, cette dispensation remarquable de la Providence, le commencement à partir de Samuel, d'une succession de prophètes destinés à durer pendant plusieurs siècles, et à cette fin-là, l'établissement sous les soins de Samuel d'une école de prophètes destinée à se perpétuer plus tard en Israël. Eh bien, tout cela était fait pour avancer l'œuvre de la rédemption. Car la principale affaire de cette succession de prophètes était d'annoncer Jésus-Christ et la glorieuse rédemption qu'il devait accomplir, et ainsi de préparer la voie à sa venue. Tous les prophètes lui rendent témoignage. Notez Actes, chapitre 3, verset 24, et le chapitre 10, verset 43. Mais Dieu a ainsi accompli les choses qu'il avait prédites par la bouche de tous ses prophètes, que le Christ devait souffrir. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 18. L'Église de l'Ancien Testament avait donc un degré de lumière qui ne lui venait pas du soleil directement, mais qui en était réfléchi. Ces prophètes étaient les luminaires réfléchissant la lumière du soleil. On peut bien le dire ainsi. En conséquence, ils parlaient beaucoup de Jésus-Christ, comme on le voit par ce que nous avons de leur prophétie. Ils faisaient donc leur principale affaire quand ils étudiaient dans leurs écoles ou dans leurs collèges ou ailleurs, de s'enquérir de l'œuvre de la rédemption, selon ce que l'apôtre Pierre déclare d'eux. Duquel est-il dit ? Duquel salut ? Les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui était réservée pour vous se sont enquis et l'ont diligemment recherché, recherchant ainsi soigneusement quand et quand eut lieu l'esprit prophétique de Christ qui était en eux, qui se trouvait en eux, rendant par avance ainsi témoignage et déclarer ainsi les souffrances qui devaient arriver à Christ et la gloire qui les devait suivre. Notez 1er épître de Pierre, chapitre 1, verset 10 et 11. Il nous est dit que l'Église du Rédempteur est bâtie sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la principale pierre du coin. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Nous terminons. Ce fut donc là, chers amis, la première chose de cette nature qui a jamais été faite dans le monde, et cela signale un grand progrès dans le développement de l'œuvre de la rédemption. Il y avait donc eu précédemment, par occasion, des prophéties de Christ, comme nous l'avons vu, mais maintenant, l'époque de la venue du Rédempteur s'approchant de plus en plus, Dieu jugea bon de mettre à part une classe particulière d'hommes pour se succéder constamment l'un à l'autre et dont l'affaire principale serait d'annoncer Jésus-Christ et sa rédemption, et comme ses précurseurs, de préparer ainsi la voie à sa venue. Chers amis, nous allons prier ensemble maintenant. L'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauvera. L'Éternel habite dans un lieu élevé. Il remplira Sion d'équité et de justice. Le désert et le lieu aride se réjouiront, la solitude sera dans l'allégresse et fleurira comme une rosée. Seigneur, fortifie les mains languissantes et affermis les genoux tremblants. Dis à ceux qui sont troublés, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et il vous délivrera. Et ceux dont l'Éternel aura payé la rançon viendront en Sion avec un chant de triomphe et avec une allégresse éternelle qui sera sur leur tête. Ils seront dans la joie. La douleur et le gémissement s'enfuiront totalement. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. La langue du muet chantera avec triomphe, car des eaux sortiront du désert et des torrents de la solitude. Et dans le chemin de la sainteté, les rachetés marcheront. Alors la gloire de l'Éternel se manifestera et toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et on a répondu, que crierai-je? Crie, toute chair est comme l'herbe, et toute sa grâce comme la fleur d'un champ. L'herbe est séchée, et la fleur est tombée, parce que le vent de l'Éternel a soufflé dessus. Mais la sainte parole de notre Dieu, elle demeure éternellement. Je suis l'Éternel ton Dieu, dit le Seigneur, qui soutient ta main droite et qui te dit, ne crains point, c'est moi qui t'ai aidé. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois point éperdu, car je suis ton Dieu. Tu te réjouiras dans l'Éternel et tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. Seigneur, tous ceux qui s'irriteront contre toi seront réduits à néant, et les hommes qui s'opposent à toi périront. Ô, daigne donc nous instruire de tes voies, afin que nous marchions dans tes sentiers. Amen. Et chers amis, sachez que si Dieu vous aime de tout son être, il est de mon devoir de vous aimer également de tout mon être. Et je vous embrasse maintenant tous avec tout mon amour. Et je vous souhaite sincèrement que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez surtout pas, nous devons prier les uns pour les autres. N'oubliez jamais cela. Et maintenant, je vais essayer, mais je ne suis pas du tout sûr, si cela marche, de vous mettre quelques mélodies d'un très lointain passé. Mais je ne sais pas si ça va fonctionner. On dirait peut-être oui.
There is nothing, no nothing, that my God can't do. He measures the sea in the span of his hand. The mountains were placed at his command. At the sound of his voice, the sun came through. There's nothing,
Now, before the message, here is George Beverly Shea to sing for you.
Tired of a life without meaning, always in a crowd yet alone, not knowing what I was needing. I walk down a long dusty road. As the sunshine beamed brightly, I saw not a cloud, nor a tree where I walked. Then I looked and I saw there before me the shadow. His eyes said a voice, it was Jesus, and a hand was outstretched to me, and my soul came alive in the shadow of the cross of
my heart. About worshiping the Lord in the beauty of holiness. I know that Paul says, I would that all men everywhere would pray, lifting up holy hands unto the Lord. Let's all worship our holy God together.
Lord God Almighty, and